1300, Dante assiste-t-il à Rome au jubilé ? En mai, le gouvernement des Blancs lui confie la mission d'établir des alliances à San Gimignano contre la politique du pape Boniface VIII, situé dans l'enfer. Dante est nommé prieur pour 3 mois. 1301, Dante figure parmi les ambassadeurs florentins auprès de Boniface VIII. Il est retenu à Rome par le pape pendant que les Noirs prennent le pouvoir à Florence. 1302, condamnation à mort de Dante et de 14 guelfes blancs par les Noirs à Florence. Cette biographie, un extrait, est tiré du livre de Jacqueline Risset, La traduction de l'Enfer de Dante, paru fin 1985 aux éditions Flammarion. Expérience limite de l'écriture, comme le dira Joyce de lui-même, dans l'exil, le silence et la ruse. Garde en mémoire ce que tu viens d'entendre contre toi, fait dire Dante à Virgile, chantiste des enfers. Et à présent, sois attentif. Quand tu seras devant ce doux regard de celle dont les beaux yeux voient toutes choses, tu sauras d'elle tout le voyage de ta vie. Françoise Malétra et Philippe Solers, pour la troisième et dernière fois, à propos d'un Dante irréductiblement moderne grâce à l'amour. De la chapelle des Pazzi et du cloître Santa Croce, nous irons au musée et palais des offices de Florence. Le professeur Pancini nous ouvrira tout à l'heure les portes des archives de l'État. Nous y entrerons pour y laisser à notre tour toute espérance d'aucune trace du sujet florentin Dante Alighieri, sauf peut-être dans le mystérieux livre du clou, Libre del Codo. Après Homère et avant Shakespeare, Dante, scribe non de Dieu mais de la matière divine, quella materia di cui mi son fatto scriba, est peut-être bien lui aussi un homme de fumée. Diffusé la première fois le 23 août 1978, troisième journée à Florence, Françoise Malétra, Philippe Solers et le professeur Pancini, chargé de réalisation Christine Berlamont. Damnation ou salvation, une même cassure entre le temps de Dante et le nôtre.
Già eran lì occhi miei rifissi al volto della mia donna, l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto, e quella non ridea. Ma se io ridessi, mi cominciò, tutti faresti quale fusse melè, quando discener fessi, che la bellezza mia è per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, come hai veduto, quando più si sale, se non si temperasse tanto splende, che il tuo mortale podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scoscende.
Déjà mes yeux contemplaient à nouveau la face de ma dame et mon âme avec eux, qui de tout autre soin se désintéressait. Celui qui a compris quel était l'aliment de mes regards dans le visage élu, lorsque je le quittais pour un autre spectacle, se représentera combien j'eus de plaisir à obéir à ma céleste escorte en balançant ma joie d'une autre joie. Dans ce cristal qui tourne autour du monde et qui porte le nom de son Seigneur aimé, sous qui toute malice à terre gisait morte, de couleur d'or et lançant des rayons, je vis un escalier qui s'élevait si haut que mes yeux ne pouvaient en atteindre le faîte. Et je voyais descendre tant de feu par les degrés que toutes les clartés qu'on voit au ciel m'en parurent s'épandre. Pour obéir aux mœurs de leur nature, ensemble au point du jour les corneilles s'ébrouent afin de réchauffer leurs plumes engourdies et puis s'en vont les unes sans retour, les autres revenant à leur point de départ, d'autres encore tournoyant à demeure. Il me semble avoir un pareil essor dans l'étincellement dont le cœur s'en venait quand il se fut posé sur un certain degré. Or, l'esprit qui s'était arrêté de le plus près devint si lumineux que je dis en pensée « Je le vois bien l'amour que tu me montres. »
La Divina Commedia, Paradiso, canto 21.
La Cappella dei Pazzi, la chapelle où nous nous trouvons maintenant, à côté de Santa Croce, c'est probablement un des plus beaux édifices qui existent au monde. Brunelleschi, lorsqu'il a construit cette chapelle pour une des familles les plus importantes de Florence, la famille qui, au cours d'une conjuration célèbre, essaiera en vain d'abattre les Médicis, quand Brunelleschi a fait cette construction, qui est comme une sorte de résumé de toutes ces grandes conceptions architecturales, une sorte de laboratoire, de bocal, de cube, qui résume toutes les merveilles architecturales de Florence, Brunelleschi, à mon avis, n'a pas pu ne pas penser à Dante. Et cette composition en gris plus clair ou plus foncé, en blanc-gris, en gris qui sort du blanc et qui rejoint le bleu des Della Robbia et la frise des chérubins, la coupole, l'autel rose et blanc, la coupole du zodiaque au-dessus de l'autel sur fond bleu, la répétition de ce bleu et de ce gris blanc bleu dans un cube, un carré surmonté d'une sphère. Tout ceci évoque la construction même de la Divine Comédie. Cette chapelle, qui est un des très grands lieux de la mystique architecturale florentine, est dédiée, comme on peut le voir, dans les quatre médaillons qui occupent les quatre coins, aux quatre évangélistes. Ils sont là, tous les quatre, en céramique de Della Robbia, avec leurs animaux respectifs et en train d'écrire. Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc, l'aigle, le taureau, le lion et l'ange. Le fait que les quatre coins de cet édifice soient entre les mains, de quatre mains, en train d'écrire quelque chose sur le papier, est aussi, à mon avis, un hommage à Dante, c'est-à-dire à la vision qu'il a dans le paradis des signes qui s'écrivent directement dans le ciel, de cette apparition lumineuse où il nous dit qu'il voit, par exemple, dans la grande vision de l'aigle, dont le bec dit « je », mais dont les pensées disent « nous », l'alphabet qui commence à se tracer en lettres de feu parlantes dans le ciel pendant que la ronde illuminée et brûlante des bienheureux, des saints, rentre et sort de la rose mystique paradisiaque.
Tal fu negli occhi miei quando fui volto per lo candor della temprata stella sesta che dentro a sé m'avea ricolto.
Aussi prompt en mes yeux, dès que je fus tourné, rayonna la blancheur de la sixième étoile, de l'astre tempéré qui m'accueillait en soi. Dans ce foyer jovial, j'ai pu voir les feux follets d'amour qui s'y trouvaient figurer à mes yeux les lettres du langage. Ainsi que des oiseaux sortis de la rivière, comme joyeux d'avoir fait bonne chère, volent en rond ou en ordre divers, enclose dans ces feux les âmes bienheureuses, chantaient en voletant et traçaient la figure d'un D, d'un I et puis d'un L encore. Au rythme de leur chant d'abord, elles tournaient, puis, une fois dessiné l'un des signes, elle se reposait en silence un moment. Divine Pégasée qui dispense la gloire et la durée immortelle aux esprits, dont s'illustrent par toi royaumes et cités, pénètre-moi de ton feu, que je peigne, tel que je l'ai compris, les dessins qu'il faisait. Et quand ces quelques vers se prouvent ta puissance. Il apparut ainsi cinq fois sept caractères, et j'en notai, voyelles et consonnes, les paroles dans l'ordre où elles se formaient. Diligite Justitiam étaient les premiers noms et verbes du dessin, les derniers, cui Judicatis Teram. Enfin, dans l'em du cinquième vocable, se groupèrent les feux, si bien que Jupiter y paraissait d'argent incrusté d'or. Je vis alors d'autres clartés descendre sur le sommet de l'em et s'y poser, en chantant à coup sûr le bien qui les attire. L'or, de même qu'au choc de tisons embrasés s'élance un jet d'étincelles sans nombre, où bien souvent les sots voient des augures, ressortirent de l'em plus de 1000 lumières, qui bondissaient plus ou moins haut selon la grâce que leur fait le soleil qui les brûle. Et chacune à sa place enfin s'étant assise, je vis le chef et le col d'un grand aigle figurés par leur cœur dans l'éclatant brasier. Le paradis, chant 18e.
À l'intérieur du paradis, nous avons quitté les corps et les expiations diverses de l'enfer et du purgatoire, et nous sommes dans un espace qui est constamment lumineux, musical et lumineux. Eh bien, à mon avis, toutes ces descriptions de Dante dans les différentes sphères célestes, l'énorme effort astronomique qu'il fait pour se placer comme voyageur dans l'Empyrée, au fond, c'est très moderne. C'est très moderne, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a à peine 10 ou 15 ans que l'espèce humaine commence à se balader dans l'espace, si l'on pense qu'il y a à peine 10 ou 15 ans que l'homme a tracé son premier pas sur la Lune, je crois que toute cette poésie de Dante qui, pendant les derniers siècles, au moment où on peut dire qu'il y avait une conquête systématique de la planète, l'époque des routes, l'époque des chemins de fer, toute cette poésie grandiose et complètement imaginaire du début du XIVe siècle retrouve tout à coup une grandeur, une fraîcheur qui auront été cachées pendant près de 5 ou 6 siècles. C'est ça qui est très étrange. Dante est un moderne parce que l'imagination d'aujourd'hui a besoin, me semble-t-il, de faire craquer les dimensions étroitement nationales, locales, terrestres après tout, qui nous contraignent à limiter notre vision aux choses les plus proches et aux problèmes les plus proches.
Ah.
Le cloître de Santa Croce, c'est aussi du travail de Brunelleschi. Et finalement, il me semble qu'il y a à Florence une contradiction très nette entre un esprit qui irait du XIIIe au milieu du XVe siècle et ce qui vient après. Et ce qui vient après, on le voit sur la place de la Signoria, par exemple, avec les statues de Michel-Ange et le commencement de l'amplification du corps humain, de cet hommage qui est rendu de nouveau au corps gonflé, viril, mythologique, qui implique tout un retour qu'on va appeler la Renaissance. L'humanisme, un retour à une sorte de glorification de l'homme. Évidemment, avec Dante et avec les gens de son époque, c'est-à-dire une floraison extrêmement rapide, condensée, comme une traînée de poudre qui disparaît très très vite. Si on pense à Saint François d'Assise, à Catherine de Sienne, à Angèle de Foligno, à Giotto. Et ensuite, comme point d'orgue à Brunelleschi, on n'a pas du tout l'impression d'être avec l'homme. On est dans une autre dimension, une dimension de vide qui me semble évidente dans ce cloître de 32 colonnes, colonnes qui sont comme des cordes d'un instrument de musique qui résonnerait dans un vide parfaitement géométriquement calculé pour indiquer une sorte de danse immobile. Et là, je crois que c'est le chef-d'œuvre des cloîtres. Donc, contradiction dans Florence entre deux cultures, comme si on avait deux civilisations. Après Dante, avec Pétrarque et Boccace, la laïcisation et l'humanisme ambiant, quelque chose va être oublié. Quelque chose va paraître dépassé. Eh bien, je crois qu'au contraire... Ce qu'indique Dante et ce cloître de Brunelleschi est plus universel, plus moderne, aujourd'hui même, que les siècles qui ont suivi. Je m'explique. Si par exemple j'amène un Chinois à Florence, je suis à peu près sûr qu'il va s'intéresser davantage à la chapelle Pazzi et au cloître de Santa Croce, qui finalement pourraient être, d'une certaine façon, des constructions bouddhistes, taoïstes, que à la Piazza della Signoria et à Michel-Ange. Je suis à peu près sûr qu'il va s'intéresser davantage au côté abstrait dans lequel nous sommes en ce moment qu'au côté gonflé et mythologique grec qui se donne cours par ailleurs. En définitive, le conflit entre ces deux cultures, c'est un conflit qui traverse tout l'Occident, constamment, entre d'une part ce qu'il faut bien appeler l'essence même de l'art chrétien porté à un point d'incandescence et de raffinement et de quasi-disparition et d'autre part la ronde de la mythologie classique. D'un côté, Vénus, Neptune, Hercule. De l'autre, c'est mystérieux quatre évangélistes. Il y a là comme un conflit, comme deux voies dans la culture, la représentation et le discours. Et je crois qu'il est temps d'essayer de déterrer cet art extrêmement oublié, caché, qui est celui de l'époque de Dante. Dante Giotto, qui d'ailleurs était extrêmement révolutionnaire pour leur temps.
Cimabue se crut dans la peinture maître du chant. Or Giotto a le cri tant qu'en est obscurci le renom du premier. purgatoire.
Si on regarde les peintures, les fresques de Giotto, elles sont tout à coup comme un nouveau monde qui dresse son rideau d'images là où on n'avait autrefois que des icônes. C'est d'une fraîcheur considérable, c'est la trace, encore une fois, énigmatique de ce fameux Saint François qui parlait aux oiseaux.
Neuf fois déjà depuis ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque à un même point, de par sa propre giration, lorsque, à mes yeux, apparut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée Béatrice. Elle était demeurée en cette vie déjà assez pour qu'en ce temps, le ciel des étoiles se fût déplacé vers l'Orient de la 12e partie d'un degré. Aussi m'apparut-elle presque au début de sa 9e année, et moi la vis-je presque à la fin de ma 9e année. Elle apparut vêtue de très nobles couleurs, d'un humble et chaste rouge, sainte et ornée, ainsi qu'il convenait à son très jeune âge. En ce point, je dis véritablement que l'esprit de la vie, lequel demeure en la plus secrète chambre du cœur, commença à trembler si fort qu'il se manifestait terriblement dans les moindres veines. Dès lors, je dis qu'amour domina mon âme, laquelle tout aussitôt lui fut mariée, et commença à prendre sur moi si grande assurance et telle seigneurie, grâce à la force que lui donnait mon imagination, qu'il me fallait accepter d'accomplir ses moindres volontés. Il me commandait souvent de chercher à voir cette angelette, et moi, enfant, maintes fois je l'allais cherchant, et voyais en elle de si nobles et louables manières que d'elle on eût certes pu dire cette parole du poète Homère. Elle ne paraissait pas fille d'un mortel, mais d'un dieu. Et bien que son image, laquelle demeurait continuellement avec moi, encourageât amour à me gouverner, cette image possédait une si noble vertu que jamais elle ne souffrit qu'amour me conduisît sans le fidèle conseil de la raison, chaque fois qu'un tel conseil eût pu être utile à entendre. Vitanova.
Alors, bien entendu, toute cette histoire tourne autour de la question de l'amour. Dante est quelqu'un qui élabore avec toute une série de poètes de son temps, et c'est d'ailleurs la première grande révolution poétique de l'Occident, avec ce qu'on appelait les troubadours, etc., toute une vision qu'on a appelée courtoise des rapports entre les sexes. Il y a d'un côté le remue-ménage des passions vulgaires et de l'autre cette espèce de sublimation extrêmement aboutie avec des intentions mystiques et l'image d'une dame élue à qui s'adresse le discours poétique qui l'inspire, qui l'habite et qui lui donne sa justification. Alors l'histoire de Béatrice est bien connue, elle a nourri les imaginations des siècles qui ont suivi. En général, on s'arrête là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus feuilleton, en méconnaissant le soubassement métaphysique. Que Dante, dans la Vita Nova, ait jeté les bases de cette grande vision du rôle d'une femme dans sa poésie, qu'il ait fait d'une femme le centre dérobé de son poème, puisque C'est finalement à cause de Béatrice qu'il écrit la Divine Comédie. C'est elle qui, elle le dit dans le purgatoire, le voyant égaré, à ce point, demande que lui soit ouvert la révélation de l'enfer et du purgatoire pour qu'il se rende compte à quel point il est en train de se perdre. Là, il y a toute une construction de Dante extrêmement complexe et subtile, puisque la femme dont il est question, c'est une femme qui est morte, qui est donc au ciel, et qui participe à la cour lumineuse des élus.
Outre la sphère qui la plus large tourne, passe un soupir échappé de mon cœur, et une intelligence nouvelle que l'amour, en pleurant, met en lui, toujours plus haut, le tire. Lorsqu'il est arrivé là où il le désire, il voit une dame qui reçoit honneur, et tant rayonne que, pour sa splendeur, l'esprit pèlerin la contemple. Mais telle il la voit, que lorsqu'il me la veut décrire, point ne comprend tant subtil est son dit, pour mon cœur de lent qui de parler le presse. Je sais pourtant qu'il parle de la gentille, puisque de Béatrice sonne souvent le nom. C'est pourquoi, si parfaitement je l'entends. Après ce sonnet, il m'apparut une admirable vision, en laquelle je vis telle chose qui me firent décider de ne plus dire de cette bienheureuse jusqu'à ce que je puisse plus dignement traiter d'elle. Et donc, s'il plaît à celui par qui toutes les choses vivent, que ma vie dure encore quelques années, j'espère dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune. Et puis, qu'il plaise à celui qui est sire de la courtoisie, que mon âme puisse aller voir la gloire de sa dame, c'est-à-dire de cette Béatrice bénie, laquelle glorieusement contemple la face de celui qui est Per omnia secula benedictus. Vita nova.
Il est bien évident que dans cette attitude de dévotion par rapport à Béatrice, on trouverait aujourd'hui facilement le rapport qu'un fils pourrait avoir vis-à-vis d'une image maternelle. Et précisément, c'est là toute l'audace de Dante, bien au-delà de ce que la psychanalyse à la fin du 19e siècle, va commencer à découvrir. Un homme, ça n'aime jamais que sa mère. C'est comme ça. Non seulement c'est comme ça, mais de deux choses l'une, ou bien on s'en rend compte, ou bien on ne s'en rend pas compte. Si on s'en rend compte, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Dante, à mon avis, en est extrêmement conscient. Béatrice s'intègre exactement dans la construction qu'il fait autour de la Vierge. La Vierge, Dante la définit à travers saint Bernard, au 33e chant du Paradis, d'une formule extraordinaire. Vergine madre figlia del tuo figlio. Mère vierge, fille de ton fils. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une femme, donc, bizarre, qui devient la fille de son fils. En d'autres termes modernes et brutaux, disons que c'est l'inceste réussi. En tout cas, c'est bel et bien d'inceste qu'il s'agit. Et que la poésie, que la littérature, que la révélation métaphysique qui peut avoir lieu dans la poésie et la littérature, ou dans l'art en général, tourne autour de cette question de l'inceste, c'est probablement ce qu'on évite de dire, qu'on n'ose pas dire, et que j'ai envie de dire. Au fond, les pauvres gens qui sont en enfer, c'est des gens qui ne se sont pas rendus compte de l'absence du rapport sexuel. Ils y ont cru, au rapport sexuel, et les voilà fixés dans cette affaire qui entraîne différentes conséquences quant à leur passion, quant à ce qu'ils auront fait durant leur existence. Croyant ce rapport sexuel, hop, en enfer. Pour aller au paradis, à travers Béatrice, à travers une femme, ça demande toute une stratégie. Béatrice et la Vierge, dont elle est une émanation, forment la matière première, la fleur du paradis. Au-delà de quoi, il y a un passage à l'abstraction complète, au point, qui est à la fois Dieu et le Christ. Dieu et le Christ formant les trois personnes de la Trinité. Trois personnes, une substance, et c'est le point final de la Divine Comédie, c'est-à-dire ces trois cercles qui forment un nœud, et dans l'un des cercles, dit Dante, il commence à voir notre image.
Ainsi donc regardait mon esprit en suspens, tout absorbé, immobile, attentif, et toujours enflammé de contempler encore. Car l'on devient devant cette lumière tel que l'on ne saurait jamais se résigner pour aucune autre vue à se détourner d'elle. Dans la profonde et lumineuse subsistance, de la haute clarté, trois cercles m'apparurent, de trois couleurs, mais d'une ampleur égale. Pour ce que je conçois, ah, combien la parole est pauvre et faible, et ce que je conçois près de ce que j'ai vu est aussi peu que rien. Quand mon regard l'eut un peu observé, ce cercle qui semblait un reflet lumineux que tu aurais en toi-même conçu, en son volume et de sa propre teinte, de notre image apparut figurée. Ainsi qu'un géomètre appliqué tout entier à mesurer le cercle et qui point ne découvre dans sa pensée le principe qu'il faut, je me troublais devant cette merveille. Je voulais voir comment au cercle s'unissait notre image et comment elle y est intégrée. Mais point n'aurait suffi mes seules ailes si mon esprit n'avait été frappé par un éclair qui mes voeux accomplit. Ici, ma fantaisie succomba sous l'extase. Mais déjà commandait au rouage docile de mon désir, de mon vouloir, l'amour qui meut et le soleil et les autres étoiles. Paradis, chant 33e.
Dans l'économie générale de la création et du salut, Dante insiste sur le fait que l'histoire sera close, tout sera terminé, seulement lorsque le nombre des élus au paradis aura atteint le nombre des anges déchus. Les anges se sont révoltés, Satan et Lucifer en tête. Ils ont été précipités du haut du ciel en enfer. Ils sont innombrables. Et pour rééquilibrer cette chute non humaine, il faut qu'un certain nombre d'élus humains atteignent le paradis. Ce qui laisse entièrement ouverte la question de savoir combien de temps encore ce monde va durer et à travers quel méandre il doit passer pour que, finalement, il s'arrête ayant atteint une sorte de saturation. Ça veut dire aussi que, finalement, dans l'esprit de Dante, tout ce qui se passe est une lutte entre des puissances qui dépassent infiniment l'homme, qui s'équilibrent, se déséquilibrent, luttent les unes contre les autres, et que l'homme a dans cette partie un rôle à jouer où il n'est absolument pas le centre, sauf par le biais de ce point brûlant qui est l'incarnation du Christ. Tout ce qui se passe donc, c'est une lutte métaphysique entre le bien et le mal, et uniquement lorsque les hommes seront assez nombreux pour avoir été élus au paradis, le chiffre sera atteint, la balance sera équilibrée, et tout pourra être dit.
Quanto è corto il dire come fioco il mio concetto, e questo che al chi vidi è tanto che non basta dicer poco. Tal era io a quella vista nova, veder volea come si convenne, rimago al cerchio e come vi si indova. Ma non eran da ciò le prime penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore che in sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome è rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.